Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
There has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational.
Hello, hello, and welcome to
Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
What a strong little.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
We would be honored if you would join us.
May the Force be with us.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition Gamers qui sera consacrée aux dernières nouvelles sur les jeux vidéo et jeux de table Star Wars. Je suis Jean-François Richard et aujourd'hui pour discuter de ces jeux, je suis accompagné de Julien Dor. Bonsoir Julien.
Bonsoir Jean-François.
Alors Julien, que se passe-t-il côté Star Wars pour toi ces derniers temps?
Ouais, je te dirai pas grand-chose. Comme je dirais, j'ai déjà parlé, je pense, dans le précédent épisode que j'étais revenu du régional de X-Wing. Et donc depuis, je t'avouerai que niveau X-Wing, moi, c'est un peu plus calme. Là, je suis en train de me remettre de mes émotions et puis ma ligue a pas encore repris, là. Mais puis tout le reste autour, pas grand-chose. Je t'avoue que je suis un petit peu en mode tranquille Star Wars en ce moment.
C'est semblable de mon côté aussi. J'ai pas grand-chose qui se passe côté Star Wars. J'attends la sortie du jeu Legion, j'ai hâte de l'essayer. Puis à part ça, sinon, j'ai vraiment pas eu le temps de me consacrer vraiment à Star Wars dans les dernières semaines. Ne manquez pas nos émissions récentes. Il y a eu le Star Wars en direct numéro 145 où Thomas, Sylvain, Céline, Raphaël et leur invité Fafanel survolent les dernières actualités Star Wars et discutent de l'annonce de la série de films écrite par David Benioff et D.B. Weiss, qui sont les créateurs de la série télévisée Game of Thrones, et ainsi que le Star Wars Collectors numéro 10, où Thomas et Raphaël discutent des certains documentaires dédiés aux collectionneurs de jouets Star Wars. On en profite aussi pour remercier nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science Fiction. Sur ce, on va en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Alors, notre sujet principal, ce sont les dernières nouvelles pour les jeux vidéo et les jeux de table Star Wars. Alors, nous allons commencer avec les jeux vidéo. La première grosse nouvelle, c'est la rumeur qui disait que Disney recherche une autre compagnie pour produire les jeux vidéo Star Wars, autre que EA. Donc on sait qu'il y a eu beaucoup de mauvaise publicité qui a été faite avec EA autour de la sortie de Battlefront 2. Mais ce qu'on apprend, c'est que Lucasfilm et Disney recherchent une autre compagnie. Donc il y a eu les rumeurs qui étaient pour parler avec Activision, l'autre compagnie Ubisoft aussi. Donc, c'est quand même intéressant comme nouvelle. Je savais que Battlefront 2 avait eu une mauvaise publicité, mais au point où ce que EA pourrait perdre la licence, je crois aussi qu'il y a eu les nouvelles des cancellations des autres jeux que EA développait. On pense à ça aussi. On pense surtout au dernier jeu qui était cancellé il y a peut-être 2 mois, là, qui était comme le jeu à joueur simple.
Ouais, joueur unique là, en TPS.
C'est ça. Puis que EA disait non, les gens veulent jouer du multijoueur, donc faut que ce soit multijoueur. Je pense que la façon que EA gère la licence dernièrement met en doute Disney et Lucasfilm. Je sais que du côté jeux mobiles, il n'y a pas vraiment de problème avec les jeux. Il n'y en a pas une tonne non plus, là. Mais les jeux mobiles, on entend quand même des bonnes choses sur les jeux. Mais je crois que avec le premier Battlefront, qui avait aucune campagne, qui avait une mauvaise publicité pour ça. Puis là, le deuxième avec les loot box, je crois que Disney, cherche vraiment une compagnie qui pourrait vraiment amener la licence Star Wars où ce qu'elle devrait être et rapporter l'argent qu'elle devrait rapporter aussi.
Je pense que c'est surtout une question argent. La question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'ils cherchent à remplacer Electronic Arts ou est-ce qu'ils cherchent à compléter Electronic Arts ? Dans un sens, on aurait Electronic Arts qui garderait sa licence et dans l'autre, on aurait Electronic Arts qui perdrait sa licence au profit d'un autre studio. Parce que je pense aussi ce que Disney constate et ce que les joueurs constatent, c'est qu'en termes de jeux Star Wars, je vais parler des jeux tout court, pas des jeux mobiles, les joueurs, ils ont rien à se mettre sous la dent à part Battlefront. Donc si t'es un joueur de tactique ou de stratégie, il n'y a rien dans les tuyaux pour un jeu de stratégie Star Wars. T'as rien dans les tuyaux pour un jeu d'aventure Star Wars. T'as rien dans les tuyaux pour n'importe quoi autre qu'un Battlefront et le FPS. Je te dirais que même au niveau combat spatial, effectivement, t'as Battlefront qui est là, mais t'as pas de combat spatial Star Wars qui viendrait, qui pourrait rentrer dedans. Donc ma question, c'est est-ce que Disney constate que Electronic Arts est pas capable ou n'a pas la volonté, ou les deux, de produire assez de jeux Star Wars au goût de Disney, auquel cas ils vont se dire continuez avec votre Battlefront, puis nous on va chercher d'autres mondes pour faire des jeux à licence type aventure ou autre, ou est-ce qu'ils ont vraiment été frustrés par ce qu'a fait Electronic Arts avec Battlefront 2? Je pense que c'est vraiment en termes de vente, hein, parce qu'on parle quand même, alors c'est pas un échec commercial, il y a quand même eu plusieurs, je crois qu'ils sont à 4 millions de ventes, mais ils s'attendaient à en vendre quelque chose comme 8 ou 10 millions. Donc, il y a quand même un gap de vente qui a été pas atteint. C'est pas un échec commercial, mais ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient. Donc, je sais pas si Disney, c'est ça qui leur fait peur. Je pense que c'est peut-être un mélange de tout. Ils sont peut-être en train de sonder le marché. Mais je pense que le prochain E3, en tout cas, qui arrive dans quelques mois, va être déterminant pour la licence Star Wars, en tout cas.
Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, comme tu dis, à part Battlefront, il n'y a rien. Il y a juste les joueurs de PC, eux autres, ils ont le jeu The Old Republic.
Oui, absolument, oui.
Mais à part ça, comme tu dis, il n'y a rien. Okay, il y a eu le jeu Lego Star Wars, Le Réveil de la Force, qui est sorti il y a quelques années, mais c'est pas assez pour dire hey, alright, j'ai.
Mais là encore, t'as pas eu de Lego Rogue One, t'as pas eu de Lego The Last Jedi. Si tu veux, la licence Lego, même la licence Lego Star Wars en jeu vidéo, elle n'a pas continué, alors qu'il y a déjà deux autres films qui sont sortis. Donc, je pense aussi que Lego commence à s'essouffler en termes de jeux. Ils ont besoin de se retrouver.
Oui, ouais, c'est ça que je voulais dire. Tous les jeux Lego, c'est la même chose.
Oui, absolument.
Il faut que tu changes un peu la recette. Là. Il y a aussi, en même temps que cette nouvelle-là est sortie, il y avait la rumeur comme quoi que Microsoft chercherait à acheter EA. Donc, peut-être que Disney se dit, il voit ça comme, OK, si EA se fait acheter par Microsoft, pour eux autres, c'est une perte d'argent pour Disney parce que là, c'est quasiment sûr que les jeux que EA vont produire vont être exclusifs à la Xbox ou au PC. Donc, pas pour les joueurs de PS4 ou même pour la Switch, quoi qu'il n'y ait pas encore de jeux de Star Wars pour la Switch. Mais je crois que là, Disney voit qu'il pourrait perdre une partie du marché. Et c'est peut-être une des autres raisons qui leur donne cette idée de trouver une autre compagnie pour produire les jeux. Quoique je suis pas très heureux de l'idée d'avoir Activision comme compagnie, parce que ça, c'est une autre compagnie qui est juste focussée sur argent. Beaucoup de microtransactions et tout, on le voit avec les jeux Call of Duty et les autres jeux qu'ils font. Ubisoft, c'est un peu moins pire. Ubisoft, quand même, ils font des bons jeux à joueurs uniques, si on pense à Assassin's Creed. Ou
ouais, voilà, c'est ça. Je te dirais, regardons qu'est-ce que produisent, parce que tous les studios sont argent. On est arrivé à un stade aujourd'hui où ça coûte tellement d'argent de produire un jeu, puis je te raconte même pas un jeu Star Wars, il y a tellement d'enjeux. Je pense qu'il faudrait plus regarder, tiens, qu'est-ce que Activision a comme studio. Faut pas oublier qu'Activision a encore Blizzard. Donc ils ont une manne en termes de stratégie qui est intéressante, ils ont une mainmise sur le PC qui est quand même assez intéressante. De l'autre côté, on a Ubisoft qui a quand même de l'expérience dans les jeux un peu, comme tu disais, solo, aventure, avec les Assassin's Creed, dont le dernier a quand même été plutôt bien accueilli, qui revient un peu. On sait qu'ils ont été capables de faire des Tomb Raider qui ont quand même relativement bien marché, qui ont quand même une patte qui était intéressante. Donc c'est vrai qu'eux, ils ont vraiment une compétence sur les jeux solo qui est, je pense, très intéressante, parce que il y aurait quelque chose à faire. C'est vrai qu'Activision fait peur à cause de Call of Duty. En tout cas, personnellement, c'est mon avis personnel. C'est vrai que perdre la licence prendre la licence d'Electronic Arts et la donner à Activision, j'ai l'impression que tu donnes ça à la même chose, puisque il y en a un, il fait Battlefront, et il y en a un, il fait Battlefield, et l'autre, il fait Call of Duty.
C'est ça.
Ouais, on reste dans le même genre de jeu.
Exactement.
Maintenant, c'est pas nous qui décidons, on verra bien ce qui se passe.
Oui, je suis d'accord avec toi. En parlant de Battlefront 2, il y a eu une nouvelle patch qui a été sortie pour PS4, Xbox et PC. Je ne sais pas si tu peux nous donner les détails de cette nouvelle patch.
Oui, parce que, et en attendant, Electronic Arts a toujours la licence et donc continue à entretenir Battlefront 2. Donc il y a un nouveau patch qui est sorti, qui est le patch 1.2. Donc le patch 1.2 qui amène plusieurs ajouts et modifications. Donc déjà, pour le mode arcade personnalisé, donc le mode que tu pouvais jouer tout seul ou avec des amis sur ta machine, sur une seule console, ils ont rajouté des nouvelles cartes, enfin plutôt ils ont ramené des cartes qui existaient dans ce mode. Donc maintenant on a une carte Kashyyyk, Hoth, Endor, Krayt, Jakku et le Death Star 2. Donc qui sont des cartes qui maintenant sont disponibles dans l'arcade personnalisée. Dans le dernier numéro de Star Wars en direct, Gamer, on vous avait parlé d'un nouveau mode de jeu, le Jetpack Cargo, qui était le mode de jeu en fait où tu as 8 joueurs contre 8 joueurs qui s'affrontent et qui ont tous des jetpacks sur le dos. Donc si vous aimez les jetpacks, ça peut vous amuser. Attention par contre, c'est un mode de jeu qui est disponible seulement pour un temps limité. Au niveau customisation des apparences, il y a des nouvelles apparences pour les héros Luke, Leia et Han. En fait, c'est les tenues de Hoth. Donc avec les grosses doudounes là qui sont un peu de, on va dire, dans le temps vu les températures qu'il y a en Europe et les températures qu'on a eues au Québec il y a quelques temps.
Donc, il avait fait de la même chose aussi avec le premier Battlefront.
Ok, ben là en fait c'est des tenues qui a priori sont débloquables dans le jeu en réalisant une série de défis. Donc ils n'ont pas encore expliqué quels étaient ces défis, mais a priori ça sera débloquable dans le jeu. Espérons que ça soit pas 15 000 kills avec le flingue en headshot là. Mais bon.
Ouais, c'est ça.
A priori, non, ils sont quand même relativement calmés là-dessus. Ils ont fait évidemment toute une batterie de corrections de bugs, donc je ne ferai pas la liste parce que c'est aussi inintéressant que long. Alors, ils ont fait quelques petites améliorations dans ce patch, notamment le prix qu'on reçoit lorsqu'on reçoit un doublon dans l'ouverture d'un coffre. Donc maintenant, en fait, l'écart qu'on peut recevoir au niveau des doublons, pour une carte commune, ça va aller de 200 à 300 doublons. Pour une carte moins commune, ça sera entre 400 et 600 doublons. Pour une carte rare, ça sera entre 800 et 900 doublons. Et pour une carte épique, maintenant, le range de doublons, ça sera entre 1200 et 3600. Au niveau des petites améliorations qui feront plaisir ou non, bah, plus ou moins utiles, on a les emotes, deux emotes pour les soldats qui seront maintenant disponibles pour tous les joueurs, même si vous ne les avez pas débloqués. Initialement, il fallait débloquer ces petites mimiques avec de l'argent dans le jeu. Maintenant, dorénavant, chaque joueur en a deux de base. Enfin, on aura deux de base pour personnaliser son soldat dès le début, même s'il n'a pas commencé à jouer en multijoueur. Et enfin, et là, je vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais il y a eu un énorme équilibrage de tous les personnages, héros en tout cas, et quelques non-héros. Un énorme équilibrage, l'idée d'essayer de pouvoir rendre le jeu un peu plus équitable entre tous les héros. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a eu des modifications sur le nombre de dégâts que font certaines armes versus le temps de rechargement de pouvoirs spéciaux. Donc là, je vous invite à aller sur le forum de Battlefront directement pour voir tous les petits détails si ça vous intéresse.
Oui, je pense que c'était les changements qui ont apporté au personnage, au héros surtout. Je pense surtout à Boba Fett qui était encore un peu trop fort, là. Je suis content de voir qu'il rebalance le jeu. Puis le fait qu'on peut avoir plus d'argent pour les cartes doubles, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça devrait prendre un peu moins de temps pour déverrouiller les héros. Parce que s'il en rajoute encore qu'il faut déverrouiller, on n'aura pas fini.
Ouais, mais quoi que les derniers n'étaient pas achetés en fait. La dernière fois qu'ils avaient, tu sais, ils avaient fait rentrer Finn, Phasma, ça c'était des héros qui étaient déjà de base.
Ouais, mais ils étaient déjà débarrés, mais je sais pas pourquoi. Moi, là, ils sont verrouillés maintenant. Faut que je les achète.
Ah ben, donc. J'ai pas relancé le jeu récemment, là. Est-ce qu'ils auraient fait une petite mise à jour où ils te débarrent le perso, puis quelques mois plus tard, faut que tu l'achètes?
Ouais, d'après moi, là, c'est que vu que c'était la sortie du film Les Derniers Jedi, là, ils se sont dit, OK, on met tout gratuit, puis après ça, ouais, non.
Ah, la stratégie de la carotte. On te met la carotte, on te la fait goûter, puis on te l'enlève. Là. Allez, viens acheter. Hey. Voilà.
Pour les jeux vidéo, on a une dernière petite nouvelle concernant un jeu pour mobile qui s'appelle Rise to Power. Donc, pour ceux qui connaissent pas, l'été dernier, EA avait annoncé le jeu. C'est un jeu de stratégie Donc, tu choisis, c'est soit que t'es l'Empire ou les rebelles, tu crées ta base, tu crées ton armement, puis ensuite, tu dois combattre soit l'Empire ou les rebelles. Donc, tu dois reprendre contrôle des planètes, des choses comme ça. Donc, il y a le Alpha, la version Alpha, qui est disponible pour les appareils Android. Donc, j'ai réussi à accéder à la Alpha. Et je dois dire que j'ai joué à peu près seulement 30 minutes et je ne le retouche pas. Parce que le Alpha est très... il y a beaucoup de bugs. Et j'aime pas la façon que... Comment je peux dire? Qu'il faut construire... Comme construire sa base, construire ta garrison, construire tes... T'as comme ta base navale pour créer des vaisseaux et tout. On voit rien, il y a comme rien. C'est comme tu cliques dessus, puis paf, c'est fait. Paf, c'est fait. Il y a comme aucun effet graphique. Il y a rien. Même quand tu... comme exemple, dans la bêta, dans la Alpha, excusez, ça te dit... OK, t'as des mercenaires qui sont autour de ta planète, tu dois les détruire, tu dois t'en débarrasser. C'est comme, OK, c'est beau, là, tu t'en vas, tu vois le vaisseau, tu cliques dessus, il se passe rien. Ça fait juste dire, OK, tu as vaincu le vaisseau, tu passes au prochain. C'est comme, il y a comme vraiment aucune engouement, là. C'est...
Ça manque un peu d'animation graphique.
Ouais, exactement. Et
de retour du jeu vers l'utilisateur pour savoir.
C'est ça, au moins qu'il donne le goût, au moins de vouloir le jouer. C'est peut-être parce que c'est la version alpha, le jeu n'est pas fini, tout ça. L'idée était bonne parce qu'un bon jeu de stratégie, c'est toujours bon. Je vais m'en tenir aux autres jeux mobiles comme Force Commander ou Galactic Heroes. Là.
OK.
En ce qui a trait aux jeux de table, la plus grosse nouvelle, évidemment la nouvelle annonce de la vague 14 du jeu X-Wing Miniature. Alors Julien, je ne sais pas si tu peux nous décrire un peu ce que contient cette vague.
Oui, absolument. Donc, la vague 14 qui a été annoncée, qui contient deux boîtes, on va dire, deux boîtes de vaisseaux. Une pour l'Empire et une pour les rebelles. Mmh. Donc, du côté Empire, on aura le droit de jouer avec le TIE Reaper. Donc, le TIE Reaper, qui est un vaisseau qui, normalement, devait être visible dans Rogue One. Je crois qu'on le voit, mais encore moins longtemps que le TIE Striker. Donc, c'est pour vous dire, clignez pas des yeux, vous risquez de le rater. Donc il ressemble au TIE Striker en un peu plus gros, je vous dirais, c'est à peu près ça le look. Mais c'est vraiment, ouais, ça vient de Rogue One. Et le deuxième pack vient aussi de Rogue One, et il s'agit du Saw Renegade Expansion Pack, donc les amis de Saw. Alors là c'est pareil, si vous voyez le film Rogue One, au moment où la planète explose, là où il y a Saw, si vous clignez pas des yeux, à un moment, vous allez voir un X-Wing qui est posé à côté de la base et qui a une peinture blanche et noire. C'est un vaisseau que vous pouviez aussi voir dans la gamme Hot Wheels, puisqu'il est sorti dans cette gamme. Et c'est un vaisseau qu'on voit... Bon, c'est un X-Wing, hein. Je crois que c'est peut-être un Z95, j'ai un doute. Non, mais je me semble que c'est un X-Wing. C'est un X-Wing aux couleurs, donc les couleurs de Saw qui sont noires et blanches. Et donc, dans ce pack, on aura un X-Wing T-65... et un U-Wing aux couleurs de Saw, donc voilà. Concernant le T-65, alors déjà le T-65, c'est pas une surprise, mais enfin la voilà, la mise à jour du T-65. Alors pour ceux qui ne jouent pas à X-Wing, faut savoir qu'il y a deux types de vaisseaux X-Wing. Il y a le T-65, donc c'est celui qu'on voit dans l'épisode 4, piloté par Luke. Mmh. Et il y a le T-70 qui est piloté par Poe Dameron, donc la nouvelle version qu'on voit dans les nouveaux films. Au niveau du jeu purement X-Wing miniature, il y a eu un très gros problème pendant longtemps, c'est que le T-65, c'est le premier vaisseau qui est sorti au tout début du jeu, donc il date du tout début du jeu. Il n'a jamais été mis à jour, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'autres expansions qui sont sorties, de cartes qui venaient aider d'un point de vue compétence le vaisseau. Il n'y a pas eu de nouveaux titres ou quoi que ce soit. Ce qui fait que c'est un vaisseau qui, aujourd'hui, en l'état actuel, est complètement inutilisable parce que beaucoup trop faible par rapport à ce qui se fait aujourd'hui avec les vaisseaux récents. Et c'était un peu embêtant parce que pendant longtemps, le T-65, il y avait un pilote qui bloquait vraiment la mise à jour de ce vaisseau, c'était le pilote Biggs. Et le pilote Biggs, en fait, était extrêmement joué, notamment dans les tournois, parce que c'était un vaisseau extrêmement fort pour protéger les vaisseaux autour. Dans une des dernières FAQ, ils ont réduit la puissance de Biggs, sa compétence, ce qui fait que maintenant, le vaisseau était complètement plus utilisé du tout. Et je pense que c'était le bon moment pour faire une mise à jour. Donc, je vous parle de mise à jour depuis tout à l'heure. Mais en fait, on ne sait pas exactement grand-chose sur cette mise à jour du T-65. Déjà, il n'a pas gagné de shield ou de coque. C'est toujours 3 coques, 2 boucliers. Il n'a pas gagné non plus d'action sur sa barre d'action. Il a toujours que focus et target lock. Ça vous donne une idée de pourquoi le vaisseau commence à être un peu difficile à jouer. Parce qu'avec 2 actions disponibles seulement pour un vaisseau d'attaque, c'est compliqué. Par contre, on a des camarades qui ont commencé à zoomer sur les cartes, sur la photo présentée, etc. A priori, il y aurait... Alors, on ne sait pas si c'est un nouveau titre, mais on pense que c'est un nouveau titre pour le X-Wing qui viendrait. Et on, par contre, le texte est illisible. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça va faire, mais on sait que ça a trait avec la position des ailes. Donc, est-ce que les ailes sont repliées? Est-ce que les ailes sont dépliées? Alors, okay. On ne sait pas encore si la figurine dans le nouveau pack aura la possibilité de bouger les ailes. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le pack en lui-même vient avec 3 fois ce titre. Donc, on ne sait pas ce que va faire ce titre, mais en tout cas, c'est... voilà, je pense que ce titre-là... Et on a une supposition sur 3 autres cartes qui semble être un deuxième titre pour le T-65 aussi. Mais pareil, on ne voit pas les cartes, donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais il y a quelque chose, en tout cas, avec ces cartes qui, on espère, va remettre le T-65 devant... Et peut-être qu'on reverra un jour Luke Skywalker sur les tables, en tout cas en pilote.
Ouais, peut-être.
Au niveau...
Écoute, oui. Non, j'allais dire, je suis d'accord avec toi, le T-65 était dû pour une mise à jour. Parce que le jeu, écoute, il y a quoi, presque 6 ans, là? Le jeu que ça existe, X-Wing Miniature 2012, je pense, c'est pareil.
Ouais, il me semble que c'est ça, ouais.
Ouais, donc, comme tu dis, ça fait des années que le X-Wing... Depuis qu'ils ont sorti le starter, le corset, tu réveilles la force... Le T-65, on ne le voit plus du tout sur les tables.
Non, mais le T-70 voit à peu près le même nombre de points. Il a plus d'action, il peut faire un tonneau barrel roll. Sa roulette de mouvement est quand même beaucoup plus agréable. Ils peuvent beaucoup mieux bouger. Il n'y a aucun intérêt. Le seul intérêt qu'il y avait au T-65, c'était d'utiliser Biggs Darklider comme pilote. C'était le seul qui était utilisé. C'était pour ça qu'il n'était pas mis à jour. Parce que si tu augmentais la puissance du T-65, tu augmentais Biggs Darklider automatiquement. Et vu qu'il était déjà sur toutes les tables, c'était pas l'idée. Et donc, accompagné du T-65, je vous parlais du U-Wing. Donc le U-Wing, c'est un peu plus étonnant de le voir là, je vous dirais, parce que c'est un vaisseau qui est quand même relativement récent. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je pense qu'au niveau du design, ils l'ont raté ce vaisseau parce que il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de liste très puissante qui ont mis en avant un U-Wing. Je pense que déjà, le fait que ça soit une grosse base, ça aide pas. Ils sont pas mal revenus avec des petites bases récemment sur des vaisseaux très gros qui sont assez étonnants. Mais le U-Wing, mise à jour du U-Wing, on ne sait pas trop ce qu'il va avoir. La seule chose qu'on sait vis-à-vis du U-Wing, c'est qu'il va y avoir une nouvelle carte de condition qu'ils ont appelée Scrambled. Une carte de condition qui vient avec une autre carte qui s'appelle Targeting Scrambler, qui donc lui est une amélioration. Et qui dit que si jamais un vaisseau a la condition Scrambled sur lui, il ne peut pas attaquer un vaisseau qui aurait l'amélioration Targeting Scrambler sur lui si ce vaisseau est à range 1. Enfin, il ne peut pas modifier les dés d'attaque en tout cas. Donc ça serait, c'est un peu dans l'idée en ce moment de Fantasy Flight Games, cette idée d'empêcher ton adversaire de modifier ses dés parce que déjà avec Fenro... sur le Phantom 2 là, qui est sorti récemment, c'est déjà cette idée là de te stresser pour empêcher ton adversaire de modifier CD avec un focus en target lock. Donc j'ai l'impression que là c'est vraiment leur credo de bataille, c'est empêcher ton adversaire de modifier CD. C'est un peu leur idée. Et donc accompagné de ce pack, cette espèce de pack mise à jour de 2 vaisseaux, on a donc le TIE Reaper pour les Impériaux. TIE Reaper qui, je vous préviens tout de suite, c'est le nouveau Papa Mobile. C'est déjà annoncé, c'est un vaisseau qui est prévu pour embarquer Palpatine. Alors, est-ce que ça va être aussi compétent? On ne le sait pas, mais en tout cas, c'est prévu pour embarquer l'Empereur. C'est un vaisseau sur petite base, et là, c'est encore étonnant, parce qu'ils sortent plus que des vaisseaux sur petite base en ce moment, malgré les tailles des vaisseaux.
Ah, c'est ça, j'allais dire.
Ouais, c'est un vaisseau de support, donc c'est vraiment pas un vaisseau d'attaque, malgré qu'il est quand même 3D d'attaque, hein, on s'entend. Mais c'est un vaisseau plus fait pour le support, qui vient avec une nouvelle compétence, enfin une nouvelle... qui est une action de jamming... qu'on a déjà vu, qu'on voit en fait avec les vaisseaux épiques. Et là, on va le voir sur les vaisseaux petite base, sur les parties non épiques. Donc, on va voir ce que ça va donner. Petite information, le vaisseau va venir avec le directeur Krennic, qui est une carte. Donc on sait pas encore trop, les cartes sont assez floues et je me suis pas vraiment j'ai pas trop plissé des yeux, je me suis pas embrouillé les yeux pour vérifier ce que font les cartes.
Donc, on voit aussi je pense à un Death Trooper.
Oui, qui... oui, il y a le Death Trooper. Le Death Trooper qui est une carte qui a été dévoilée, qui dit que après qu'un autre vaisseau allié à une portée de 1 devient défenseur, si tu es dans l'arc de tir du vaisseau qui attaque, donc qui attaque ton allié, à range 1-3, l'attaquant reçoit un stress. Donc c'est effectivement quelque chose qui fait défaut en ce moment aux impériaux. Je me rends compte parce que j'essaie de faire une liste comme ça. Impérial, c'est des compétences pour redonner des jetons de stress à tes adversaires. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à mettre en place si tu veux jouer Impérial en ce moment. T'as des outils côté rebelle, t'as des outils côté scum, mais t'as pas beaucoup d'outils côté Impérial pour le faire. Donc je pense que c'est une nouvelle carte qui va venir pallier le problème. Par contre, à savoir que le Death Trooper prend 2 places d'équipage.
Excellent. J'avoue que je suis pas fort à l'idée qu'ils fassent des gros modèles sur petite base, comme ils ont fait avec le TIE Silencer, puis là qu'ils font avec le TIE Striker.
Ouais, le TIE Silencer, c'est une plaie quand tu joues sur la table, parce que tu l'accroches devant, tu l'accroches derrière, c'est...
En tout cas, je sais pas, mais j'espère que c'est pas quelque chose qu'ils vont continuer à produire. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu les vaisseaux, moi, honnêtement, personnellement, j'étais comme, ok, ils commencent à manquer d'idées. Je sais que c'est leur jeu le plus populaire, Fantasy Flight, fait que c'est pas un jeu qu'ils vont arrêter ou quoi que ce soit. Mais j'ai comme l'impression qu'ils commencent juste un peu à ils pigent vraiment dans l'obscurité là, pour les vaisseaux. Là. Depuis quelques vagues, là, ils ont annoncé 2 vaisseaux, mais j'imagine qu'il va y avoir d'autres vaisseaux qui vont être annoncés en lien avec le film Solo. Fait que c'est sûr qu'il doit y avoir un nouveau Millennium Falcon qui va sortir.
Le nouveau TIE sûrement.
Ouais, le nouveau TIE sûrement aussi. Excellent, merci Julien. Il y a la nouvelle extension pour le jeu Star Wars Destiny qui est paru, qui est le set Legacies. Le set contient 2 nouveaux starters, qui est donc comme un starter pour Obi-Wan et un starter pour Boba Fett. Il y a aussi le set qui contient le 170 cartes, je crois. La chose qui est intéressante de ce nouveau set, je dois avouer qu'au début, j'étais très fort sur le jeu, puis là, ces derniers temps, je l'aime plus ou moins. Mais une des cartes qui est le plus jouée, et ça va sembler vraiment étrange, mais il y a beaucoup de decks qui sont construits autour de Jar Jar Binks. On penserait jamais que Jar Jar serait un personnage populaire dans un jeu, mais il l'est pour le jeu Destiny. Il y a aussi l'apparition de Dr. Aphra, qu'on voit dans les bandes dessinées Darth Vader et les bandes dessinées Dr. Aphra aussi. Et comme fidèle à eux-mêmes, Fantasy Flight Games, pour compléter, si vous voulez jouer les personnages élites du starter, donc Boba Fett, Luke Skywalker... Et je crois qu'il y a aussi le Elite Stormtrooper. Vous devez acheter 2 starters ou trouver les autres cartes à l'unité. Car il n'y a pas tous les dés nécessaires pour construire un personnage, la version élite du personnage dans le starter. C'était la même chose aussi avec Finn dans le starter du Réveil de la Force. Il y avait les 2 dés pour Kylo Ren et Rey. Mais pas pour Finn. Mais là, pour ce starter-là, il n'y a aucun personnage que les 2D. Donc, si vous voulez vos versions élites, vous devez acheter 2 starters. Avec la sortie de la nouvelle extension, il y a aussi un élément intéressant qui est entré dans le jeu. Donc, il y a aussi le pack, le Rival Draft Pack. Donc, dans le fond, ce que ça permet, c'est donc ceux qui jouent les jeux de cartes, qui jouent comme genre Magic ou quoi... Une des choses qui est très 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 populaire, c'est de faire des drafts. C'est-à-dire que c'est des tournois où tu achètes des packs, et tu te construis un deck à partir des cartes que tu as dans ton deck. Pour Destiny, c'est plus difficile parce que même si tu dis ok, tu achètes 5 boosters, tu n'as pas assez de cartes pour te faire un deck parce qu'il y a juste 5 cartes par paquet et un dé. Donc le Rival Draft Pack, ce qui te permet. C'est que c'est un pack qui contient les cartes nécessaires. Donc, tout le monde a ces cartes-là qui sont jouées dans les tournois de draft. Le Rival Draft Pack contient autour de 25 cartes qui sont utilisées pour les tournois. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous achetez, vous avez votre draft pack. Vous avez juste besoin d'en acheter un. Vous n'avez pas besoin d'en acheter un à chaque tournoi que vous faites. Donc, vous avez votre draft pack. Et à ce moment-là, vous achetez les boosters nécessaires. Donc, j'ai vu qu'il y en a 4 boosters, 8 boosters des tournois. Vous prenez les cartes des boosters ainsi que les cartes du Rival Draft Pack et vous créez votre deck. Puis ce qui est intéressant, c'est que le Rival Draft Pack contient aussi des personnages uniques qu'on ne retrouve pas dans les autres extensions. Donc, il y a une version de Anakin Skywalker qui est ce qu'on appelle un apprenti en conflit. Donc, vous pouvez le jouer autant du côté obscur que du bon côté de la force. C'est ce qui est un élément intéressant. Pas mal toutes les autres cartes et les héros, c'est toujours des héros que la ligne entre le bien et le mal est très mince. Donc, c'est des héros qui s'est fait que les héros pouvez les jouer autant d'un côté que de l'autre. Donc, le Rival Draft Pack est paru aussi, et ce qui complète l'extension Legacies. Comme Fantasy Flight avait annoncé, Legacies, c'est comme le nouveau jeu de base pour Destiny. Donc, il remplace le set Awakening qui n'est plus en production. Donc, Legacies sera en production pour l'année, jusqu'à l'année prochaine, lorsque la nouvelle version ou la nouvelle extension du jeu de base va paraître. Et on s'attend aussi à avoir 2 autres extensions qui vont aller avec le jeu Legacies. Des extensions qui devraient paraître, là, une au courant de l'été et l'autre sûrement à l'automne. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une annonce d'une extension autour du film Solo. Et l'autre extension devrait être au mois d'octobre ou au mois de novembre. Un autre jeu de miniature très intéressant, Armada. On a 2 extensions très attendues qui sont finalement parues, qui est le Chimera et le Profundity. Julien, je ne sais pas si tu peux nous parler de ces 2 extensions.
On avait déjà fait un tour sur ces 2 extensions il y a quelques temps. Je crois que c'est le Star Wars en direct précédent ou celui encore d'avant, où on avait déjà pas mal décortiqué qu'est-ce qui allait arriver. Donc, on a côté Empire le Chimera, qui est donc le Star Destroyer de Thrawn. Donc, c'est le Star Destroyer avec la peinture au-dessus, l'espèce de serpent, là sur le dessus, vraiment très joli. Donc, qui vient épauler de 2 Protectorate Starfighter, donc les 2 vaisseaux que l'on voit dans Star Wars Rebels. Donc, elle vient évidemment avec la carte le Grand Amiral Thrawn. Toutes plein de cartes comme Dark Vador ou d'autres équipages pour builder en fait son Chimera correctement. De l'autre côté, on a le Profundity qui est donc le vaisseau que l'on voit dans Rogue One à la toute fin là, pour la bataille finale, dont le commandant c'est l'amiral Radus. Et là c'est pareil, donc on en avait déjà parlé, pas grand chose de plus à rajouter, sauf que ces 2 vaisseaux sont maintenant disponibles et vous pouvez aller les acheter si vous voulez compléter votre armée Armada.
Oui, je sais que la caméra me tente beaucoup. La seule fois que je suis un peu déçu, c'est la version de Rebels. Donc, même Tron, c'est la version de Rebels et non la version de l'univers Legend. C'est quand même un Star Destroyer de plus pour l'Empire. C'est toujours bon à avoir.
Absolument.
Un jeu très attendu qui va paraître le 22 mars, qui est Star Wars Legion. Donc, Legion est le nouveau jeu de miniature Star Wars de Fantasy Flight Games. Il y a eu plusieurs nouvelles dernièrement. Je crois que Fantasy Flight met vraiment le paquet pour nous montrer tout ce que contient le jeu, les nouvelles extensions. Parce qu'il y a le 22 mars, il y a le Core Set qui sort, mais il y a aussi 8 extensions qui sortent en même temps. Donc, les extensions, vous allez avoir.
D'ailleurs, si je puis me permettre de t'interrompre, pour ceux qui sont intéressés par Star Wars Legion, qui veulent voir à quoi ça ressemble, il y a le Asmodee, qui est donc le diffuseur du jeu. Donc, Fantasy Flight Games, c'est celui qui fait le jeu, et Asmodee, c'est celui qui le diffuse, qui le vend, en tout cas en Europe. Donc, Asmodee France a invité relativement beaucoup de YouTubers dans ses locaux pour essayer Star Wars Legion. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a quelques vidéos où on voit une partie test, on va dire, de Star Wars Legion. Donc, si jamais vous n'avez pas d'idée sur quelle chaîne chercher, vous pouvez aller voir du côté de French War Game Studio. Donc, French War Game Studio, qui est une chaîne spécialisée Warhammer, mais qui a fait récemment une review, une démonstration du jeu Star Wars Legion dans les locaux d'Asmodee. Donc si jamais ça vous permet de voir un peu, en attendant que nous on fasse notre épisode spécial dessus.
Oui. Donc je voulais juste revenir sur les extensions qui allaient être disponibles en même temps que le Core 7. On va avoir le AT-ST qui va être disponible, le T-47 Air Speeder qui est le Snow Speeder qu'on voit dans l'Empire Contre-Attaque. Il y a une extension pour les Stormtroopers, il y a une extension pour l'infanterie rebelle, il y a l'extension AT-RT, il y a aussi les Speeder Bike, et je crois
t'as
que...
les Snow Speeder aussi, les Snow Troopers aussi, il me semble.
C'est ça, je suis pas sûr si les Snow Troopers sortent le 22 mars.
Ah oui, peut-être qu'ils sortent pas à la sortie, ouais, effectivement.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi, donc ils ont annoncé aussi les Fleet Troopers pour les rebelles qui les soldats qu'on voit dans Nouvel Espoir, qu'on voit dans Rogue One, qui se font décimer par Darth Vader à la fin de Rogue One. Spoiler. Là, si vous l'avez pas encore vu, là.
Trop tard.
Ouais, trop tard. Ça, c'est l'unité qui est annoncée pour les rebelles. Et le commandant qui vient avec cette unité-là, c'est Léa. Et donc, j'ai bien, bien hâte d'essayer ce jeu. Les miniatures ont l'air tout simplement magnifiques.
Oui, absolument.
Ce qu'on a pu voir des démos, et c'est sûr que là, vu que c'est des démos, c'est beau, beau, beau. Mais même les modèles qu'ils ont mis pour faire les cartes, que ce soit comme les forêts ou que ce soit comme pour faire une réplique de Tatooine et tout, là, c'est vraiment superbe. Donc, j'ai très hâte d'essayer ce jeu. Et comme Julien dit, on va sûrement faire une émission spéciale sur le jeu lors de sa sortie.
Tu sais ce qui me fait peur juste un peu avec ce jeu? Donc, il n'est pas encore sorti. Donc là, c'est Nostradamus. En dehors du prix, hein, on va pas se leurrer. Ouais. C'est que j'ai peur qu'il y ait beaucoup, 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 beaucoup plus de gens qui fassent une armée impériale et qu'on se retrouve avec des impériaux contre des impériaux souvent sur la table. Parce que quand je regarde déjà un peu les retours des gens, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent faire des impériaux. Et malheureusement, vu le prix des figurines, je pense pas qu'il y ait tant de personnes que ça qui vont pouvoir se permettre de monter deux armées. Et j'ai bien peur qu'on se retrouve avec énormément d'armées impériales et très très peu d'armées rebelles.
Et pourtant, ça c'est mon opinion personnelle, je trouve que l'armée des rebelles, c'est plus diversifié dans le sens que, tu sais, l'Empire, ben c'est les Stormtroopers. Fait que tu peux pas avoir 50 versions différentes de Stormtroopers, mais tu sais, les rebelles, t'as les Fleet Troopers, puis là, oh, t'as les autres soldats, comme les commandos, puis là, t'as le Snow Speeder, t'as les... Ah, t'sais, je trouve qu'il y a une plus grande diversité que d'avoir juste des petits bonhommes blancs partout...
Ouais, mais du côté impérial, tu vas avoir les Biker Scouts qui vont sortir un jour. Tu vas avoir les... Donc, t'as les Stormtroopers, t'as les Snowtroopers. Dépendant s'ils sortent des clones ou pas, quoique, Fantasy Flight Game est assez allergique à la prélogie. Mais t'as aussi tous les soldats du Nouvel Ordre qui peuvent sortir. Au niveau des véhicules blindés, t'as la TST. On sait qu'il y a un AT-AT... Alors, on sait. Non, ça va, c'est un secret de polichinelle, mais il y a un AT-AT qui va arriver.
Oui, grâce à une des commandes du General Veers. Parce qu'il y a une des cartes qui vient avec le General Veers qui donne une attaque de AT-AT. Donc, on ne sait pas si c'est pour faire croire qu'il y a un AT-AT qui attaque ou si c'est vraiment, on s'attend à ce qu'il y ait un modèle qui va être disponible.
Ben, j'ai vu des leaks. Il y a l'air d'y avoir l'AT-AT déjà prêt.
Ah oui?
Ouais. J'ai vu des leaks, mais ça, je ne sais pas si c'est la version... de Star Wars Legion, mais en même temps, tu fais pas Star Wars Legion sans sortir un AT-AT, ça me paraît improbable. Ça me paraît pas réaliste.
Non, exactement. C'est juste la seule chose, c'est que si tu fais le AT-AT pour l'Empire, c'est quoi ton. C'est quoi le du côté rebelle que t'as qui peut. Écoute, t'as rien. Ils peuvent pas rien sortir du côté rebelle qui pourrait avoir un peu la même force qui peut amener la balance sur une carte.
Ben, je te dirais qu'ils ont sorti le T-47 Snow Speeder. T'es pas à l'abri qu'ils te sortent d'autres vaisseaux ou des trucs comme ça, hein, je sais pas. Mais c'est un peu ça qui me fait peur. Je suis curieux de voir comment ils vont équilibrer les forces. Je serais un peu peiné de voir une armée impériale avec plein de blindés contre une armée rebelle avec que plein de soldats. Ben, j'aimerais bien qu'ils trouvent du blindé du côté rebelle, en tout cas pour équilibrer un peu la balance, au moins visuellement sur la table.
Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir.
Absolument.
Un jeu qu'on sait qui va ressentir les effets de Legion, c'est le jeu Imperial Assault, que tout le monde a vu comme un jeu qui est maintenant fini et enterré, parce que Legion, vu que c'est un autre jeu miniature, Pourtant, c'est deux jeux complètement différents. C'est pas le même public pour ces jeux-là. Mais bon, on voit que Fantasy Flight continue à supporter Imperial Assault car ils ont sorti une nouvelle carte pour la version Skirmish du jeu, n'est-ce pas, Julien?
Ouais, alors, c'est pas une nouvelle carte dans le sens un nouvel endroit où vous allez pouvoir jouer. C'est une nouvelle carte que vous pouvez acheter déjà faite et que vous pouvez dérouler. Donc un nouveau tapis de jeu. En fait, c'est une carte qui existe déjà, c'est la carte Mos Eisley. C'est une carte que vous pouvez faire avec vos petites tuiles en carton, là, vous pouvez la construire. Mais c'est toujours très laborieux de trouver les tuiles, de les construire, de les mettre ensemble. C'est toujours un peu laborieux. Et donc, pour faciliter la tâche, Fantasy Flight Game, et pour faire un peu d'argent, on va pas se leurrer, Fantasy Flight Game sort les tapis de jeu. Dessus, tu as la carte déjà imprimée. Et donc, cette carte Mos Eisley n'est pas encore disponible. Eh bien, maintenant, c'est chose faite prochainement, puisque cette carte est disponible à l'achat sûrement chez tous vos revendeurs.
J'ai hâte de voir s'ils vont sortir d'autres extensions pour le jeu une fois que Legion est sorti.
Tu vois, tu disais que c'est pas le même public. Je suis mitigé avec. Je vois que c'est pas le même jeu. Ça, c'est sûr que c'est pas le même jeu. C'est pas les mêmes forces. Il y a un jeu. Ça va être plus un jeu d'armée. Legion, c'est plus un jeu d'armée contre armée. L'autre jeu, c'est plus un jeu de, on va dire, d'escouade contre escouade. Donc, c'est plus un jeu tactique. Mais ça reste deux jeux où tu as les petits bonhommes à peindre, à peu près de la même échelle. Je me demande justement si c'est pas le même public. Je suis curieux de voir comment Imperial Assault va survivre à Legion.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le monde qui joue au mode Skirmish, Escarmouche, Imperial Assault, je pense qu'eux vont faire le saut à Legion.
Ouais.
Mais ceux qui préfèrent jouer plus à la campagne de Imperial Assault, c'est donc le but des nouvelles extensions qui sortent avec le jeu. Hein. C'est comme chaque nouvelle extension est une nouvelle campagne. Je crois que ces gens-là vont rester avec le jeu, mais bon, c'est comme tu dis, c'est de savoir si 50% des gens qui jouent à la campagne et 50% qui jouent au mode escarmouche. Ça, malheureusement, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il va avoir un impact, même si. Comme on dit, c'est pas tout à fait le même public, mais c'est sûr qu'il va avoir un impact lorsque Legion va sortir, puis qu'Imperial Assault va tomber un peu. Ça me fait penser à un autre jeu que Fantasy Flight a produit qui s'appelait Descent, qui est un jeu qui... Imperial Assault est basé sur le jeu Descent, sauf que Descent, c'est côté fantastique. Donc, c'est un jeu que Fantasy Flight, ils ont beaucoup mis dessus. Ils sortaient extension et tout. Puis là, depuis 2 ans, plus rien. Donc, je sais pas si pour Imperial Assault, ils se sont dit on est arrivé ce qu'on voulait arriver, puis que là, on va mettre l'emphase sur Legion. On va savoir dans les prochaines
années. Je pense que cette année, on est encore tranquille. L'année prochaine, ça devrait encore aller. Ça sera d'ici 2-3 ans qu'on verra l'impact vraiment sur Imperial Assault.
Oui, exactement. Maintenant qu'on a parlé des jeux de miniatures, passons à l'autre. Jeu très populaire pour Fantasy Flight, qui est le jeu de rôle de Star Wars. Donc, le jeu de rôle qu'on sait qui est divisé comme en 3 sous-jeux, qui est le jeu Edge of the Empire, Age of Rebellion et Force and Destiny. Donc, ils ont sorti un livre ressource qui s'appelle Dawn of Rebellion, qui est disponible depuis 2 semaines, je crois. Ce livre ressource, la particularité qu'il a, c'est qu'il est compatible avec les 3 jeux. De rôle, donc comme j'ai dit plus tôt, Edge of the Empire, Age of Rebellion et Force and Destiny. Habituellement, les livres que Fantasy Flight produisent pour les jeux de rôle sont spécialisés soit pour une classe ou pour un module d'aventure. Celui-ci, c'est un livre qui est consacré vraiment à une époque, qui est l'époque de la guerre civile, qui est surtout focusé sur l'époque durant la série Rebels. Donc, les personnages de Rebels sont dedans. Il y a même aussi Rogue One. Donc, je serais très curieux de voir ce livre. J'ai pas personne, moi, avec qui jouer au jeu de rôle. C'est quelque chose que je voulais essayer. J'ai j'ai 2 core rules book, là, les livres de règles pour Edge of the Empire puis Force and Destiny. C'est juste de trouver le temps et les personnes pour pouvoir jouer. Mais écoute, même si vous jouez pas le jeu, je vous le dis. La qualité de ces livres de Fantasy Flight est absolument incroyable. C'est des livres, c'est construit avec une qualité, c'est des livres qui vont pas se briser. Les images qui sont dedans sont vraiment superbes. Donc, même si vous n'êtes pas fan de jeu, mais vous aimez comme tout ce qui est histoire Star Wars, l'univers, c'est des livres que je vous conseille quand même à regarder, qui sont quand même assez dispendieux, mais bon, si vous cherchez un peu sur le net, vous êtes capable d'en les trouver en spéciaux. Ensuite, l'autre jeu de Fantasy Flight Games, qui est le jeu de cartes Star Wars The Card Game. Il y a donc la dernière
extension, Force Pack, la dernière extension. Qui est sortie. Donc, faut savoir donc Star Wars The Card Game, c'est le jeu qui était avant Star Wars Destiny en termes de jeu de cartes chez Fantasy Flight Games. Donc, c'est toujours un jeu qui est alimenté. L'idée qu'a Fantasy Flight Games avec ce jeu, c'est d'essayer de vous faire revivre les grandes batailles de Star Wars, en tout cas les grandes batailles historiques de Star Wars. Ils ont pour ça fait des cycles, et le cycle en cours actuellement, celui qu'ils alimentent, c'est le cycle qui concerne la bataille de Hoth. La dernière extension de la bataille de Hoth, qui s'appelle Blizzard Assault, est maintenant disponible. Et vous allez donc pouvoir, avec cette extension, revivre en tout cas les derniers moments de la bataille de Hoth. Et grâce à cette extension, vous allez avoir deux cartes principales, deux unités principales, qui sont Blizzard 1 et Blizzard 2, qui sont deux AT-AT côté Empire, qu'il va falloir donc soit défendre, soit torpiller si vous êtes rebelle. Donc Blizzard 1, c'est l'AT-AT dont le général Veers a pris les commandes, et Blizzard 2, c'est donc le deuxième AT-AT. Il y en a eu d'autres dans la bataille de Hoth. Et donc voilà, c'est ça grosso modo qu'on peut dire sur cette extension. J'invite les gens qui connaissent beaucoup plus ce jeu à venir sur la page de Fantasy Flight Games pour voir en détail un peu toutes les subtilités qui viennent être ajoutées avec cette extension.
Ça aussi, c'est un autre jeu que, depuis la sortie de Destiny, ce jeu est moins populaire qu'il était. Je crois aussi que c'est un jeu qui est en voie d'extinction parce qu'ils n'ont pas encore annoncé. Habituellement, après chaque cycle, ils annoncent comme une grosse extension pour le jeu. Et ils l'annoncent d'avance et ils n'ont pas encore annoncé la prochaine extension pour ce jeu. Donc, ça demande. Je crois peut-être aussi qu'ils font juste ralentir la production à un moment donné.
Puis ils sortent quand même beaucoup de choses Star Wars avec Legion qui arrivent, etc. Je pense qu'à un moment, ils vont peut-être aussi avoir un problème de production. Puis ils ont un problème, c'est que c'est toujours le même auditoire. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est déjà un jeu de cartes qui faisait pas beaucoup de bruit avant Destiny.
Exact.
Donc là, avec Destiny, on va me dire que c'est pas du tout le même genre de jeu de cartes. Hein. Ça, je suis absolument d'accord. Reste que ça fait deux jeux de cartes. Quand les gens viennent choisir un jeu de cartes Star Wars, j'ai peur qu'ils s'orientent plus vers Destiny que vers Star Wars The Card Game.
Écoute, la boutique où j'achète mes produits, je pense qu'ils ont plus rien le jeu de cartes Star Wars The Card Game. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu aucune extension ou aucun Force Pack. Donc, ça montre à quel point c'est pas très populaire. Dernière nouvelle que nous avons. On fait un petit retour sur le jeu de rôle. Il y a un nouveau livre ressources pour les guerriers pour le jeu de rôle Force and Destiny qui va paraître dans les prochains mois. Donc, pour ceux qui jouent la classe guerrier dans le jeu. Vous allez avoir toutes les ressources disponibles, donc de comment créer vos personnages. Dans le fond, ça donne aussi une historique, comment faire vos entraînements, quel genre de type de combat vous pouvez faire et tout. Encore une fois, je vous le dis, je ne doute pas du tout de la qualité de ce livre et ça devrait être disponible d'ici le mois de juin. Et sur ça, nous allons conclure l'émission. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter par email à studio@starwars.direct, aussi sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. Comment nous rejoindre? Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à GFDarkJedi et Julien.
Alors moi, c'est par courriel à julien@mintinbox.net.
Parfait. Ben, pour ce qui est de nos prochaines émissions, il va y avoir une littérature qui va être disponible bientôt où ils ont discuté des dernières nouvelles de Delcourt, surtout le fait qu'il abandonne le côté...
Le Québec, Legend. Non?
Non, c'est que Legend, ils vont plus produire de livres Legend. Et aussi, on va commencer à faire sûrement des spoilers sur le film Solo. Et il y a d'autres émissions aussi en production qui vont paraître très bientôt. On remercie encore une fois nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Olenet, Sitclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science Fiction. De la part de Julien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.